Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M qui vous propose son Kiosque Magazine du lundi 22 décembre. Pas 18, 22 décembre déjà. Qui se consacre, comme à l'accoutumée, à la culture et à la société dans divers magazines. Et ce matin, nous sommes un trio en studio pour vous proposer cette heure qui s'en vient.
Oui.
Le divertissement, nous l'espérons. Les articles intéressants.
Oui, très, très bon. C'est le temps des fêtes, vous allez voir.
C'est ça. Alors, il y a Franceline Nuviard.
Franceline.
Oui, bonjour. Franceline.
Franceline Nuviard.
Oui.
Et il y a Serge Hamelin.
Oui, c'est moi.
Oui, et Roger Roy, celui qui vous parle. Oui. Alors, nous avons des articles intéressants, comme je viens de le dire, je le réitère. Serge, qu'est-ce que
vous... Moi, je vais être dans le Protégez-vous et je vais vous parler de bébelles. Ah. Des jouets, mais des jouets intelligents. Aïe. Qui ont été testés.
Est-ce qu'il y a le genre des jouets aussi?
Le genre?
Le genre.
Oh, oui. Ah oui, le genre des jouets.
Le genre,
aussi.
Oui, oui. Et Franceline?
Eh bien, moi, j'ai choisi un article aussi dans le Protégez-vous de janvier 2015 qui s'intitule « Grand-maman disait vrai ». Et avez-vous une idée de ce dont il traite?
Il ou elle?
L'article?
L'article, là. Non.
Non.
Aucune idée.
Eh bien, il s'agit de recettes simples pour soigner les petits bobos.
Ah bon?
Ah bon, c'est un peu intéressant, ça.
Oui,
j'ai toujours un petit peu mal partout.
Ah ben là, je suis un peu, je porte à faux un peu avec vos sujets parce que je suis très sérieux, mon affaire.
Ah, comme d'habitude.
Le premier texte que j'ai à vous proposer, c'est celui que j'ai trouvé dans l'actualité du 1er décembre. Il est rédigé par Catherine Dubé et Noémie Mercier, qui ont mené une enquête pour connaître les moyens qui existent ou qui sont suggérés contre les menaces d'attentats au Canada, au pays.
Bon, je vous écoute.
Avant de donner quelques suggestions qui existent, une mise en contexte, d'abord les chiffres. 12 000 combattants étrangers ont rejoint les rangs du djihad en Syrie et en Irak, dont 3 000 occidentaux, 130 Canadiens et 80 Canadiens seraient rentrés au pays après avoir participé de près ou de loin à des activités terroristes à l'étranger. 90 Canadiens considérés comme radicalisés sont surveillés par la GRC. Et voici une statistique qui se confirme parce qu'il y a eu des attentats encore en France il y a quelques jours. Sur les 213 attentats terroristes perpétrés aux États-Unis depuis l'an 2000, 40 % ont été l'œuvre de personnes agissant seules et non affiliées à des groupes extrémistes connu. Alors, les journalistes soulignent l'importance des réseaux sociaux pour promouvoir ce qu'on appelle le djihad. Les djihadistes possèdent une arme redoutable, leur téléphone intelligent. C'est avec cet appareil qu'ils arrivent à recruter des combattants et des partisans avec autant d'efficacité. Ils se prennent en photo dans des poses de conquérants et répondent à leurs admirateurs en direct du champ de bataille. Le djihad des années 2010 utilise à fond les techniques de marketing de notre époque, médias sociaux, des images léchées, des slogans publicitaires en anglais pour toucher un large public. La structure des organisations terroristes actuelles colle parfaitement à la culture en ligne. Alors qu'Al-Qaïda était une organisation élitiste et hiérarchisée, le groupe armé État islamique est très décentralisé. Chacun est libre de mener le djihad à sa manière, en Syrie ou dans son pays d'origine, le plus souvent, avec les moyens du bord. Une voiture, un couteau, un vieux fusil de chasse. Le chercheur américain Jarrett Brackman, qui est membre du Consortium National Study of Terrorism and Responses to Terrorism, a étudié ces nouveaux modes de recrutement en ligne. Il suffit de cliquer « j'aime » sur une image ou un compte Facebook pour offrir son soutien à une organisation terroriste, souligne-t-il, dans une analyse qu'il a effectuée. Une connaissance très superficielle et souvent déformée de l'islam suffit pour se dire membre du mouvement. Un journaliste du site d'actualité français Rue 89 a récemment mené une expérience révélatrice de la puissance de ces outils de communication planétaire. Il s'est créé un compte Facebook sous l'identité d'un franco-marocain de 20 ans, fanat de musique et de foot. Il a suffi de quelques demandes d'amitié à des sympathisants de l'État islamique pour que son fil d'actualité soit dominé par les appels au djihad, les algorithmes de Facebook qui sélectionnent le contenu affiché en fonction de nos comportements en ligne avaient transformé à une vitesse sidérante le média social en un efficace outil d'endoctrinement. Le journaliste a dit: J'ai l'impression que mes repères s'estompent. Deux jours à peine après le début de l'expérience, à force de voir des morts, des décapités et des djihadistes, je commence à trouver ça normal. Voici quelques moyens qu'on explore, qu'on cherche à mettre sur pied pour contrer cette tendance. Un des moyens qu'on utilise, c'est mettre la famille dans le coup. L'Allemagne applique avec les radicaux islamistes une approche qui a fait ses preuves auprès de jeunes néo-nazis. Le pays finance des organismes tels que Hayat qui interviennent auprès de jeunes en voie de radicalisation. Hayat compte sur les familles et les amis pour détecter le plus tôt possible les comportements inquiétants, discours haineux, nouvelles fréquentations. Une ligne téléphonique nationale d'urgence a été mise en place pour qu'on puisse les signaler. Des travailleurs sociaux guident ensuite les proches dans leurs interventions auprès de la personne à risque. La démarche consiste à comprendre les motivations profondes de celle-ci pour ensuite l'aider à atteindre ses objectifs autrement que par la violence. L'organisme ne décourage pas la pratique religieuse, seulement le djihad. Il ne contacte la police que si le jeune présente un risque. Il intervient aussi bien auprès des familles musulmanes que de familles athées. Et Christiane Boudreau, mère du jeune calgarien Damien Clermont, converti à l'islam et mort en Syrie en début d'année, à l'âge de 22 ans, réclame la mise en place d'une initiative semblable au Canada. D'ici la fin de l'année, la GRC compte lancer un programme national qui lui permettrait d'intervenir en collaboration avec les communautés et les familles auprès des personnes vulnérables qui sont en voie de se radicaliser, mais n'ont pas encore basculé dans la violence. Autre moyen, rééduquer plutôt que criminaliser. Les djihadistes canadiens qui reviennent au pays après avoir combattu ou s'être entraînés en terre islamique sont considérés comme des menaces potentielles pour la sécurité du pays. Ils sont fichés et surveillés. Le Danemark tente une autre approche, celle de la réinsertion à Aarhus, deuxième ville en importance. Un centre accueille les combattants qui décident de rentrer au pays plutôt que de mourir en martyr en Syrie. On leur offre un suivi psychologique et de l'aide pour trouver un emploi ou poursuivre leurs études. L'accent est mis sur la réinsertion plutôt que sur la modification des croyances. L'approche ne fait pas l'unanimité, certains estimant que ces radicaux sont susceptibles de mener des attaques en sol danois. Autre suggestion, faire comme avec les sectes. L'anthropologue française Dounia Bouzard voit dans les techniques d'endoctrinement à l'islam radical des mécanismes semblables à ceux utilisés pour recruter les membres d'une secte. Au Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam à Paris, elle applique donc des techniques de désendoctrinement avec les 130 familles qui ont fait appel à son équipe. Rien ne sert de raisonner les jeunes, ils sont convaincus de détenir la vérité, selon elle. Il faut plutôt les ébranler par l'évocation de souvenirs et d'émotions pour qu'ils retrouvent leur identité. Texte donc, c'est sérieux, qui se retrouve dans l'actualité du 1er décembre. Il est signé par deux journalistes, Catherine Dubé et Noémie Mercier. Comment contrer la menace intérieure?
Nos grands-mères ont toujours une recette simple pour soigner les petits bobos. Sachez reconnaître les trucs qui fonctionnent vraiment. C'est tiré d'un article de Catherine Crépeau dans le magazine Protégez-vous de janvier 2015 et qui s'intitule « Grand-maman disait vrai ». D'abord, un clou dans la bouche. Placez un clou de girofle contre votre dent douloureuse, croquez, attendez quelques minutes qu'il ramollisse, puis recrachez. Votre gencive sera engourdie pendant environ une heure. Vous pouvez répéter l'exercice aussi souvent que vous le désirez, mais vous devrez certainement aller chez le dentiste puisque les clous de girofle n'ont aucun pouvoir curatif. Autre chose, de l'aloès sur une peau irritée. Vous faites pousser de l'aloès dans votre salon? Bien que les vertus curatives de cette plante ne soient pas prouvées hors de tout doute, de petites études lui confèrent des propriétés apaisantes et calmantes. Faites le test la prochaine fois que vous souffrirez d'une irritation cutanée ou d'une brûlure légère, comme un coup de soleil. Coupez une feuille d'aloès et étalez sur votre peau le gel qui s'en écoule. Si vous ressentez des bienfaits, vous pouvez répéter l'opération deux ou trois fois par jour. Et encore, une tasse d'eau chaude pour le mal de cœur. Nos grands-mères disaient d'y ajouter du bicarbonate de soude ou du sel. Mais selon le pharmacien Olivier Bernard, ce n'est pas nécessaire. La chaleur de l'eau suffit pour faire diminuer les dérangements de l'estomac qui causent la nausée. Du gingembre pour calmer la nausée. Plusieurs études reconnues ont prouvé que le gingembre agit comme un antinauséeux dans le cas de maux de cœur attribuables à la grossesse ou à une intervention chirurgicale. Mastiquer un petit morceau, soit environ 1 g de gingembre cru et pelé pendant quelques minutes, et recrachez-le. Vous pouvez aussi boire une infusion chaude que vous aurez préparée en faisant bouillir des morceaux de racines dans de l'eau pendant 5 à 10 minutes.
Serge Opine, c'est là que ça fonctionne.
Hein? Très bien. Le gingembre, l'eau chaude.
Ah oui. Et le gingembre peut aussi aider à calmer les crampes intestinales et les ballonnements.
Oui.
Oui, son efficacité est cependant moins documentée en ce qui concerne le mal des transports, où les nausées sont provoquées par un dérèglement de l'oreille interne. Mais attention, le gingembre a des propriétés anticoagulantes. Il est donc contre-indiqué pour les personnes qui prennent des médicaments qui éclaircissent le sang, celles qui souffrent d'ulcères d'estomac et les femmes dont les menstruations sont abondantes. Autre chose, du vinaigre pour les oreilles fragiles. Ah. Oui, vous pouvez prévenir l'otite du baigneur en versant dans vos oreilles une solution composée à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Normalement, 4 gouttes de cette préparation par oreille pour les enfants et 8 pour les adultes suffisent pour acidifier le conduit auditif et diminuer le risque d'infection. À faire de quelques minutes à une heure avant la baignade. Du bicarbonate de soude quand ça pique. Pour soulager les démangeaisons dues aux piqûres de moustiques, d'insectes et de guêpes, mélangez un peu d'eau et du bicarbonate de soude pour faire une pâte que vous appliquerez sur les zones irritées. En cas de piqûres multiples ou de varicelle, par exemple, vous pouvez tout simplement verser une demi à une tasse de bicarbonate de soude dans l'eau du bain.
Ah, toute la boîte.
Oui. Enfin, le rhume. Les remèdes maison pour casser le rhume pullulent. Sachez cependant que leur seul effet est d'atténuer les symptômes de toux ou de congestion, comme le font les sirops en vente libre, mais ils n'ont aucun effet sur le virus. Alors voilà tout de même quelques trucs pour vous soulager. Incorporez une cuillère à soupe de miel et une autre de jus de citron à une tasse d'eau chaude. La chaleur détend les muscles de la gorge et le miel diminue l'irritation qui stimule la toux, alors que la vitamine C du citron est recommandée pour protéger contre le rhume, même si les effets de cette dernière ne sont pas prouvés. Mais oubliez le gin ou le rhum que votre grand-mère y ajoutait, car l'alcool est irritant.
Mmh.
Ouais. Autre chose, versez de l'eau bouillante dans un grand bol et placez votre tête recouverte d'une serviette au-dessus de la vapeur. L'expérience sera plus agréable si vous ajoutez des herbes odorantes comme le thym, la menthe, l'eucalyptus. Mais c'est simplement la vapeur qui a un effet thérapeutique. Mélangez une cuillère à thé de sel dans une tasse d'eau tiède et gargarisez-vous. L'eau salée soulage les maux de gorge, diminue la toux et aide à liquéfier les sécrétions comme le font les solutions salines en vaporisateur nasal vendues en pharmacie. Et enfin, versez-vous un bol de bouillon de poulet. Aucun effet curatif prouvé, mais un effet psychologique indiscutable. S'il ne guérit rien, le bon vieux bouillon de poulet hydrate, réconforte et contient des nutriments. Voilà, c'était quelques petites recettes pour soigner des petits bobos. Vous devez vous aussi en avoir d'autres, peut-être.
Ça a été vraiment testé.
Dites-moi, c'est dans quelle revue?
C'est dans la revue Protégez-vous de janvier 2015. Et c'est écrit
En avance, vous.
Ouais. Mmh. Ouais. Et c'est écrit par Catherine Crépeau.
Oui, j'aime bien ça.
Le facteur frappe en avant. Knock, knock. À chaque fête, chaque événement, le facteur frappe en avant. Knock, 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 knock. Un paquet qui vient de New York. J'ouvre la boîte en tremblant. Je trouve un bel éléphant. Un piano, un cœur, un coq. Un trèfle à café. Good luck. Good luck, good luck, good luck. Fais le bruit du bracelet breloque. Good luck, good luck, good luck. Fais le bruit du bracelet breloque. Au poignet que je secoue, admirer. Choc de bécassine à Donald Duck, une clochette à grelots, Colombine et son Pierrot. Mais le jour de la Coupe Stanley, mon beau bracelet s'est envolé. Bad luck, bad luck, bad luck. Bye bye, mon bracelet breloque. Jamais ma reine de New York n'a su. Faisait le bruit du bracelet breloque. Good luck, good luck, good luck. Faisait le bruit du bracelet breloque. Good luck, good luck, good luck. Fais le bruit du bracelet breloque. Good luck, good luck, good luck. Fais le bruit du bracelet breloque. Good luck, good luck, good luck.
Marie-Michel Desrosiers, une chanson de... Le texte est de... Le texte est de...
Clémence? Desrochers,
de Clémence, oui.
Ben oui.
Et la musique est de Ariane Moffat. Ça ressemble, la musique, à Ariane Moffat.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est bien. Maintenant, un texte que je suis allé lire dans l'actualité du 1er décembre, toujours. Il est signé par Valérie Borde. Le titre, des projets fous, fous, fous. Le journaliste nous parle de travaux de recherche ou d'innovation qui pourrait, c'est au conditionnel, nous simplifier la vie ou l'embellir ou peut-être nous embêter un peu. Voyons des exemples dans le domaine de la santé, de l'environnement, du transport ou de la techno. Ça pourrait être très utile pour parler tant parce qu'il y a les changements climatiques. Là. La maison amphibie. Plutôt que de surélever un bungalow situé en zone inondable sur les bords de la Tamise, des architectes britanniques bâtissent une première maison amphibie qui coulisse sur quatre piliers et s'élève au fur et à mesure que l'eau pénètre entre les deux caissons de fondation. Elle redescend quand le niveau de l'eau baisse. Oh. L'an dernier, des inondations records ont fait pour plus de 2 milliards de dollars de dégâts au Royaume-Uni. Autre invention, le coussin gonflable pour cyclistes. C'est une belle photo ici, là. Le coussin gonflable de l'entreprise suédoise Hofding se porte autour du cou comme un col et se déploie en 0,1 seconde. Ça va vite. Il forme alors un gros casque mou qui enveloppe presque toute la tête et protège le crâne et le visage du cycliste lors d'un impact. Testé par l'assureur suédois Folksam, il absorberait beaucoup mieux que les chocs que les casques traditionnels. Déjà vendu en ligne et dans une centaine de boutiques en Europe au prix, c'est pas donné, là, de 460 euros, 650 $ environ.
Okay. C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas si mal. Hein? Mm-hmm. Volé à l'eau de mer, des chercheurs du U.S. Naval Research Laboratory en Floride ont réussi à faire voler un petit avion radioguidé avec un carburant produit à partir d'eau de mer. Le procédé qu'ils ont mis au point permet d'extraire simultanément de l'eau, le gaz carbonique et l'hydrogène, qui sont ensuite recombinés pour former un liquide dont la composition s'approche de celle du kérosène. Coût de production entre 3 et 6 $ pour 4 litres, selon le chimiste Heather Willauer, responsable des travaux, qui envisage une utilisation commerciale dans moins de 10 ans. Bon, faire voler
mais
des avions.
Mais c'est quand même bien.
Pas si mal, hein, quand même. capter l'énergie du bruit. Recharger son téléphone grâce au bruit ambiant, voilà l'une des applications envisagées pour les nanotiges mises au point par des chercheurs britanniques en collaboration avec la société Nokia. Exploitant l'effet piézoélectrique, qui permet à certains matériaux de transformer l'énergie mécanique en électricité, ces dispositifs, plus petits qu'un timbre, peuvent capter les vibrations du bruit ambiant afin de générer un faible voltage. Ils pourraient servir de source d'énergie d'appoint pour les téléphones, par exemple, dont la batterie se rechargerait pendant une sortie en discothèque ou au resto, c'est peut-être mieux en discothèque.
Oui.
Autre innovation ou autre projet de recherche, fabriquer le vivant. Fabriquer des êtres vivants sur mesure relève de moins en moins de la science-fiction cette année. Une équipe de 80 scientifiques, majoritairement américains, chinois et français, a franchi une étape majeure en biologie synthétique en réussissant à reproduire en laboratoire un chromosome complet de la levure de boulanger. Pour les biologistes, la levure de boulanger, ce champignon microscopique qui sert à faire du pain ou de la bière, est un modèle pour tous les organismes dits eucaryotes, dont les cellules comportent un noyau, comme les plantes et les animaux. Petit bout par petit bout, des dizaines d'étudiants ont fabriqué de l'ADN artificiel à l'aide des techniques de la biologie moléculaire. Puis les chercheurs ont accroché ces quelques 300 000 paires de bases, les briques élémentaires de l'ADN, à un chromosome de levure, pour y remplacer peu à peu son matériel génétique d'origine. Il leur a fallu 7 ans pour obtenir ce micro-organisme en partie conçu sur mesure, qu'ils ont surnommé SC2.0, pour, là je vous donnerai pas le nom scientifique, la recette de SC2.0 publiée en avril dans la revue Science ne constitue que la première étape d'un programme beaucoup plus ambitieux. Des centaines de chercheurs dans le monde se sont en effet donnés pour mission commune de reconstruire l'intégralité des 16 chromosomes de la levure. La tâche sera colossale, mais à moins d'obstacles inattendus, on se rapproche à grands pas du premier organisme eucaryote doté d'un patrimoine génétique entièrement synthétique. Et après? En 2010, un rapport de la Commission de bioéthique américaine avait conclu qu'il n'y avait pas lieu de paniquer devant ces tentatives de fabriquer le vivant en laboratoire. Il recommandait toutefois une prudente vigilance concernant cette nouvelle forme de biotechnologie. De la biologie synthétique pourrait découler des avancées importantes pour produire tant des vaccins que de nouveaux médicaments, aliments ou biocarburants. Depuis, des groupes militants ont appelé en vain un moratoire sur la recherche, alors que les succès obtenus poussent au contraire de plus en plus de scientifiques vers ce nouveau champ d'études. Oh, oui. Alors, tuer son patient pour le sauver maintenant. Ça, c'est une nouvelle technique. C'est assez contradictoire. Une équipe de chirurgiens de Pittsburgh a obtenu cette année l'autorisation des autorités médicales pour expérimenter une technique radicale visant à sauver des personnes blessées par balle et amenées aux urgences dans un état critique, remplacer très rapidement tout leur sang par une solution saline refroidissante qui abaisse leur température corporelle à 10 degrés Celsius. Le blessé peut être maintenu pendant 2 heures dans cet état qui ressemble à une mort par hypothermie au cours duquel le cœur ne bat plus et l'activité cérébrale est nulle. Dans ces conditions, une opération deviendrait moins risquée. Le chirurgien Samuel Tischerman se donne 2 ans pour valider cette technique extrême mise au point sur des porcs. Objectif, dépasser les 10 % de survie obtenus pour ces blessés lorsqu'ils sont traités par les méthodes actuelles. Alors, c'était des innovations ou de la recherche qui se fait actuellement, des projets fou. C'est dans l'actualité du 1er décembre, il y en a d'autres, là. C'est Valérie Bard qui s'est intéressée à cette question.
Salutations distinguées. Vous hésitez à serrer des mains en cette saison de grippe. Adoptez le fist bump. Cette salutation, qui consiste à cogner votre poing fermé sur celui de votre interlocuteur, transmet deux fois moins de bactéries que la traditionnelle poignée de main, selon des chercheurs britanniques. C'est Barack Obama, déjà adepte du fist bump, qui va être content.
Eh ben, dites, on apprend tous les jours. Mon Dieu Seigneur. Saviez-vous ça qu'il y a des real life super heroes?
C'est que ouais.
Le jour, le jour, ils bossent à l'entrepôt, au bureau, dans le métro, et la nuit, ils enfilent leur costume de super-héros. Ce sont les RLSH. Et un peu comme l'obésité, le phénomène a débuté aux États-Unis et s'est étendu à la planète entière. Leur mission non sollicitée, aider son prochain et inciter au civisme. Il y en a en Argentine, il y en a au Mexique, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a un aux États-Unis. Celui en Grande-Bretagne, c'est vous, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, c'est Angle Grinder Man. Il s'est fait un nom en délestant bénévolement les citoyens londoniens de leurs sabots de Denver, ah, armés d'une meuleuse, malheureusement tenue à l'écart de Weapon X. Il a été pogné avec des lunettes de protection toute sa carrière. La police n'a étrangement jamais reçu de plainte à son sujet.
Et l'hiver sera barbecue. Hein? L'arrivée de la neige ne devrait pas signer l'arrêt de mort de votre barbecue.
Sur le balcon.
Oui. Voilà quelques conseils qui vous permettront de savourer des grillades tout l'hiver. Même si la chaleur de votre garage est invitante, n'utilisez jamais un barbecue dans un endroit fermé. Les risques d'intoxication au monoxyde de carbone sont bien réels. Installez-vous plutôt dehors, sur votre balcon, à l'abri du vent. Mais habillez-vous chaudement. Gare au foulard qui pourrait pendouiller au-dessus du grill et prendre feu. Commencez d'avance. Quand le mercure descend sous zéro, un barbecue peut prendre jusqu'à deux fois plus de temps qu'en été pour se réchauffer. Le temps de cuisson pourrait aussi s'étirer. Maintenez le couvercle fermé pour minimiser les pertes de chaleur et utilisez un thermomètre à viande pour savoir quand les aliments sont prêts.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Eh ben dis donc, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Alors, maintenant, un jouet comme les autres. De quoi je parle? Je parle de la tablette numérique. Oui.
Ah oui.
Je suis dans la revue Protégez-vous. On va parler de jeux intelligents. C'est merveilleux. Est-ce que ça s'adresse à vous?
À tout le monde.
À tout le monde, hein? Un jouet comme les autres, la tablette numérique. Catherine Crépeau nous parle, a écrit cet article. Outil ludique et pédagogique. La tablette a désormais sa place dans le coffre à jouets de vos enfants, à la condition de ne pas en abuser, bien sûr. À 2 ans, Alice a déjà compris, ça doit être Alice au Pays des Merveilles, hein? Alice a déjà compris comment manipuler la tablette numérique de sa mère. Ses petits doigts glissent sur l'écran, faisant défiler les photos de son frère et de sa sœur et sélectionnant sa dernière comptine préférée. Parce que son utilisation est intuitive, il suffit de toucher pour obtenir une rétroaction. Les enfants l'adoptent facilement. Et selon une étude sur les effets des médias et de la technologie sur les jeunes utilisateurs, menée en 2013 par l'association américaine à but non lucratif Common Sense Media, 38% des enfants américains de moins de 2 ans utilisent des tablettes ou des téléphones intelligents. Ils étaient 10% seulement le faire en 2011. Alors, ça augmente à une vitesse hallucinante. C'est nuisible ou éducatif? La tablette étant relativement récente, ses effets sur le développement des enfants n'ont pas été mesurés. Ce n'est toutefois pas une raison pour ne pas l'utiliser, soutient la neuropsychologue Francine Lucier. Elle croit que les applications à vocation éducative et pédagogique, si elles sont bien élaborées, peuvent aider à développer l'imagerie mentale, la mémoire, la créativité et la logique des enfants. Et Annie Lucier, orthopédagogue et mère de famille, est convaincue que l'utilisation de la tablette a un effet positif chez les jeunes. C'est un complément aux jouets. La tablette est intéressante, mais doit rester un outil complémentaire aux autres sources de stimulation des enfants, telles que les jouets de manipulation, les jeux de rôle, les livres et les sorties au parc, précisent les spécialistes rencontrés. Il faut encadrer l'usage de la tablette de façon à trouver un équilibre entre les moments sans technologie, les moments de jeu et les moments où l'enfant fait l'acquisition de connaissances à l'aide d'applications éducatives, souligne Thierry Carcenti. Le professeur est cependant d'avis que la tablette numérique n'est pas une gardienne. L'accompagnement des parents est essentiel pour maximiser les apprentissages. Peu importe la qualité de l'application, les enfants ont besoin d'être guidés. Annie Lucier croit, elle aussi, que c'est aux parents de diriger leurs enfants vers des contenus adaptés et plus intéressants pour eux. Elle-même, par exemple, élimine les applications violentes au profit de celles qui encouragent l'interaction sociale et l'ingéniosité. Elle suggère également de verrouiller la tablette et ne pas acheter d'application devant l'enfant qui pourrait être tenté d'imiter le geste. Alors, les écrans comme la tablette ne sont pas de mauvais outils. C'est dans l'abus que se trouve le danger, alors il faut faire attention. Et une tablette même à l'école, la tablette numérique encourage les jeunes à apprendre, stimule leur curiosité, favorise la réussite scolaire et pourrait même aider à contrer le décrochage. La tablette a un potentiel incroyable pour faire apprendre davantage de matière aux jeunes et développer leurs compétences, croit Thierry Carcenti, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. Selon lui, si tous les élèves québécois avaient accès à cet outil, la société ferait un bond gigantesque sur le plan de l'apprentissage des jeunes. Il serait même possible de diminuer le décrochage, puisque l'utilisation de la tablette en classe entretient leur motivation. Une enquête réalisée par le professeur Cassenti à l'automne 2012 auprès de 6057 élèves de la sixième année du primaire à la quatrième année du secondaire et auprès de 302 enseignants du Québec a mis en évidence plusieurs avantages de l'iPad en contexte scolaire. Eh bien, dites donc. Hein? Alors, le jeu intelligent. Votre enfant demande de nouveaux jeux pour la tablette. Protégez-vous recommande 32 applications qui feront travailler et ses neurones. Donc, des jeux de 2 à 12 ans, il y a des jeux de 5 ans à 12 ans, et ne vous fiez pas strictement aux catégories d'âge. Par exemple, l'application Poisson affamé. C'est cute. Classé dans les 5 ans et plus par Protégez-vous, peut très bien convenir à un enfant de 10 ans s'il joue au niveau plus difficile. À l'opposé, un enfant de 7 ans qui est avancé en lecture pourra s'amuser avec les homophones de l'application J'accorde, suggérée pour les 9 ans et plus. Tous les titres recommandés sont offerts pour l'iPad et 21 le sont pour les tablettes Android à des prix de 3 $ en moyenne. Si cher. Alors, nous avons testé les versions complètes des applications, mais plusieurs peuvent être essayées en version légère et gratuite. Donc, je vous mentionne quelques applications pour les enfants de 2 à 4 ans. Alors, c'est pas vous, ça, Roger. Alors, compte jusqu'à 10, apprends les chiffres avec Montessori. Ah, fabriqué en France, Seven Academy. C'est science, maths et logique. iPad, ça coûte 3 $. Alors, c'est bon pour les encouragements à réussir, les différentes étapes, personnages sympathiques, narration de grande qualité. Les enfants ont adoré le petit hibou. Compter et additionner. C'en est un, de 2 à 4 ans. Et puis là, alors, il y en a des dizaines pour les 5 ans et plus. Et puis, il y en a pour 9 ans et plus. Alors, vous pouvez consulter le Protégez-vous de novembre 14.
Le grand reportage du Reader's Digest du mois de décembre a pour titre « Mourir pour de l'ivoire ». Le journaliste qui en est l'auteur est Damon Taborc, T-A-B-O-R-C. Ce reportage constitue une enquête journalistique sur l'un des plus importants réseaux criminels de trafiquants, des jungles du Cameroun au bazar du marché noir à Pékin, en passant par le Vietnam. Le texte compte une quinzaine de pages, je vous en donne un aperçu. Tirer sur un éléphant est facile. On repère ses traces, aussi grandes que des plateaux de service, et on les suit. Puis, il n'y a plus qu'à viser la tête, explique celui que nous appellerons Pierre. Maigre et agité, il braconne pour des clients. Nous sommes convenus d'un rendez-vous dans un hôtel de Bertoua, une ville du sud-ouest du Cameroun, plaque tournante de la contrebande d'ivoire. Il accepte de me parler du braconnage des éléphants d'Afrique, mais Pierre se méfie. Il demeure sur le seuil et inspecte l'intérieur de la chambre d'hôtel. Au Cameroun, une organisation de protection de la faune dirigée par un ancien officier des renseignements israéliens cible depuis quelque temps les trafiquants d'ivoire. Cet homme, qui s'appelle Ophir Drouri, monte des opérations d'infiltration dans ce genre d'hôtel et a fait jeter en prison quantité de trafiquants d'animaux sauvages. Il faut savoir que, depuis 1989, le commerce international de l'ivoire a été interdit. Mais pour assurer le respect de cette interdiction, il faudrait évidemment beaucoup, beaucoup plus de garde-chasse. Pierre peu enclin à parler des hommes qui l'engagent pour, est peu enclin à parler des hommes qui l'engagent pour tuer les éléphants. Les patrons de Pierre sont de toute évidence des hauts fonctionnaires ou des hommes d'affaires. Dans un pays pauvre comme le Cameroun, seule une petite élite a les moyens de financer de coûteuses expéditions de plusieurs semaines dans la jungle. Il dit « Quelqu'un m'appelle et on me fournit des cartouches. Je pars avec des porteurs et nous passons 3 ou 4 semaines en forêt. » Pierre braconne depuis des années, il a tué des dizaines, voire des centaines d'éléphants, et il se vante même d'en avoir abattu 23 en une seule expédition. Il y en avait tant qu'il avait fallu plus d'une semaine pour récupérer les défenses. Pierre utilise une machette spéciale pour retirer l'ivoire, un travail laborieux qui exige de bien dégager la défense du maxillaire supérieur de l'animal. Il faut procéder correctement, et cela prend du temps. En 2011, 25 000 éléphants furent massacrés sur tout le continent africain. L'année dernière, une enquête révélait que la population des éléphants d'Afrique centrale avait chuté de 62 % au cours de la dernière décennie. Les braconniers en tuent un si grand nombre que leur capacité de reproduction ne compense pas les pertes subies. Certains écologistes prédisent la disparition complète des 420 000 éléphants d'Afrique dans les 10 ans à venir. Aujourd'hui, la nature du braconnage a changé. Ceux qui le pratiquaient pour des raisons de subsistance ne se contentent plus d'abattre un éléphant à l'occasion. On est plus méthodique et on joue des frontières poreuses et de la surveillance inadéquate qui minent tant de pays africains. De complexes réseaux criminels composés de braconniers, d'intermédiaires, de négociants et d'insaisissables barons dominent le commerce. Certaines activités, comme celle de Pierre, restent modestes. D'autres, en revanche, font circuler des tonnes de défenses. Selon l'ONU, la criminalité liée aux espèces sauvages pèse plus de 10,7 milliards de dollars et la contrebande d'ivoire y occupe une place inquiétante, la 4e place après la drogue, la traite des êtres humains et le trafic des armes. Les groupes écologistes sont unanimes. L'équation de la demande est associée à l'explosion du marché de l'ivoire en Chine. Une petite quantité d'ivoire est également acheminée en fraude vers la Thaïlande et les États-Unis. Dans les villes chinoises, la nouvelle classe moyenne dispose désormais de revenus suffisants pour acheter des sculptures en ivoire, luxe réservé autrefois aux bien nantis. Sur des sites web comme Alibaba, la version chinoise de eBay, les babioles en ivoire se vendent sous le nom Xiangya, qui signifie « dent d'éléphant » en mandarin. Certains investisseurs se protègent d'un marché immobilier incertain en achetant de l'ivoire, aujourd'hui appelé « or blanc ». Avec la présence accrue de l'empire du milieu en Afrique, la police arrête de plus en plus de Chinois qui sortent en contrebande de petits objets d'ivoire à bord d'avions faisant route vers l'Asie ou qui font office d'intermédiaires dans de plus vastes opérations. En octobre 2012, les douaniers de Hong Kong ont intercepté 2 conteneurs transportant plus de 4 tonnes d'ivoire d'une valeur d'environ 3,7 millions de dollars, la plus importante saisie jamais réalisée en Chine. Les conteneurs venaient d'Afrique et avaient transité par de nombreux pays afin de brouiller les pistes. Les barons de l'ivoire n'ont jamais été identifiés. La Chine est la plus récente d'une longue liste de nations obsédées par l'ivoire. Dans l'Antiquité, les Grecs engageaient des mercenaires éthiopiens qui se laissaient tomber des arbres sur les éléphants pour leur trancher le jarret à la hache. Avec la production en série de broches, boutons, cages à oiseaux et reliures de codex en ivoire, les sculpteurs romains furent responsables de la disparition des troupeaux d'Afrique du Nord. Des siècles plus tard, les grossistes arabes approvisionnaient les marchés florissants de l'Inde et de Chine. Puis vinrent les Européens. Les Anglais semblaient particulièrement efficaces. En 1850, l'Angleterre importait 500 tonnes d'ivoire d'Afrique orientale. Et en 1900, les États-Unis étaient devenus les plus grands consommateurs d'ivoire d'éléphant au monde. On transformait les défenses en touches de piano, boules de billard, couverts ou peignes. Alors, après les parcs nationaux là, qui ont été institués par les Britanniques et les Belges dans les années 1920, on a maintenant l'interdiction de l'ONU qui interdit le commerce international des éléphants, mais qui se poursuit quand même, évidemment, en contrebande. C'est dans la Reader's Digest qu'on peut lire ce texte qui s'appelle « Mourir pour de l'ivoire ».
Alors, c'est le temps des fêtes. On continue avec les jouets, pour n'en pas dire les bébelles. Alors, les jouets. Dans la revue Protégez-vous, on a fait encore des tests. Et puis, les jouets ont-ils un genre? C'est Catherine Crépeau qui nous parle de ça. Et on parle des stéréotypes. Trousse de maquillage pour les filles et cape de super-héros pour les garçons. Les stéréotypes ont la vie dure dans le monde des jouets. Les jouets véhiculent de nombreux clichés sexistes. Il suffit d'entrer dans un magasin spécialisé pour le constater. Les rayons sont immédiatement identifiables à leur couleur, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Et dans les catalogues, la séparation est aussi marquée. Il y a bien quelques pages neutres pour les jeux vidéo et les jeux de société, mais autrement, les camions, trains électriques et jeux de construction sont associés aux garçons et les poupées, outils domestiques et trousses de beauté aux filles. Deux univers ludiques qui se côtoient sans se mélanger. L'intensification de ce clivage rose-bleu au cours de la dernière décennie et la création du style « girly » constitue un retour en arrière par rapport aux années 80, selon Louise Cossette, professeure au département de psychologie de l'UQAM. Il y avait alors un courant unisexe qui était très critique des stéréotypes traditionnels. On trouvait dans les jouets des représentations de filles aussi actives que les garçons. Or, au cours des dernières années, le marketing de genre s'est amplifié. Disney et ses princesses ont tapissé les rayons des filles et de paillettes et de roses, et ceux des garçons d'effigie de Flash McQueen. Les éditeurs de jeux de stratégie et d'habileté offrent des univers féminins et masculins distincts pour leurs produits populaires. Les parents lisent des histoires à leurs filles ou à leurs fils plutôt qu'à leurs enfants. Même les jeux de construction ne sont plus unisexes. Par exemple, la plupart des ensembles de blocs Lego permettent aux filles de construire des villas de plage ou des salons de coiffure en rose et mauve, alors que les garçons sont invités à fabriquer des hélicoptères ou la base d'opération de Batman. Outre la couleur, ce sont les valeurs associées aux jouets qui font tiquer Francine Descaries, professeure au département de sociologie de l'UQAM. L'auto rose ne sera pas une voiture de course, mais une décapotable. Heureusement, il existe de nombreux livres, jeux de société, d'habileté, de coopération ou de découverte qui conviennent à tous. C'est une question de marketing qu'on nous dit. Le jouet, outil de développement, le jouet n'est pas banal. Il ne s'agit pas simplement d'un divertissement, c'est un outil d'apprentissage. On dit souvent que les filles acquièrent plus de langage plus vite. C'est en partie parce qu'on parle plus à une poupée qu'à un camion. Explique Louise Cossette.
C'est fort en psychologie.
Ah, c'est fort. Le jeu participe au développement psychologique et cognitif de l'enfant. Des recherches ont montré qu'il existait un lien entre la pratique des jeux de blocs, de construction et d'adresse et certaines habiletés spatiales. Les enfants qui jouent à la bagarre développent des talents de socialisation et de négociation, tandis que ceux qui pratiquent des sports d'équipe apprennent à mieux se situer dans le temps et dans l'espace. Quant aux jeux d'imitation, ils favorisent le développement du langage. Les filles auraient donc intérêt à jouer davantage à la balle et les garçons gagneraient à prendre soin d'une poupée.
Ah, ah oui.
Alors, hein, vous savez quoi donner maintenant à votre garçon pour Noël? Le jouet porte aussi un message social sur le rôle que filles et garçons sont appelés à tenir dans la société. Les enfants se sociabilisent à travers les jeux. Ils y apprennent leur rôle dans la société ainsi que les attentes des gens vis-à-vis d'eux. On n'envoie pas le même message social aux garçons qu'on encourage à l'action qu'aux filles, chez qui on valorise le paraître, ajoute Francine Descaries. Ça court mal habillée en princesse, vous savez.
C'est drôle. Pas des souliers aussi comme
ça. Il nous reste deux minutes et j'ai tellement d'affaires à vous dire. Avec. Alors, encourageons la diversité. Le rôle des parents est capital pour contrer les images stéréotypées véhiculées par les jouets. Il n'y a rien de grave pour une fille d'avoir des jouets roses et des trousses de maquillage. L'important, c'est de ne pas se limiter à ça. Bon, souligne Francine Descaries. Ainsi, il n'est pas question de refuser les jouets de genre à une fille ou à un garçon, mais d'ouvrir l'éventail des choix et d'éviter de se moquer de la fillette qui demande un camion ou du garçon qui veut une poupée.
Ben, c'est peut-être là que ça commence.
Oui, ben c'est là. Et j'espère que c'est pas là que ça finit. Les comportements qui diffèrent sont souvent mal perçus, souligne Louise Cossette, particulièrement chez les garçons. Mm-hmm. Pour la plupart des gens, il est plus facile de voir une fille jouer aux petites voitures et se déguiser en pirate que de voir un garçon donner le biberon à une poupée ou porter une robe de princesse. Voyez-vous? Alors, ils ont ici des recommandations de jouets. Écoutez, il y en a 100 recommandations.
100?
Ah, 100. Alors, puis ça a été testé, vérifié par des familles. On donne les noms des familles, là, je peux pas vous donner. Il y a 45 familles qui ont testé 100 jouets et plus. Alors, on va y aller pour les tout-petits. Un petit jouet tout-petit pour les tout-petits. Hein? C'est Baby Clementoni. Théo le marteau. C'est cute. Alors, c'est un marteau de 18 cm en plastique et en caoutchouc. Ça pourrait être bon pour tout le monde, ce marteau. Hein? Propose deux chansons, 5 énoncés, des sons et les chiffres de 1 à 3. 3 piles boutons comprises. Le marteau coloré au sourire sympathique. La voix de Théo est amusante, son rigolo, résistant, facile à prendre pour les petites mains. Le marteau n'a pas de bouton de volume et le son est un peu fort. Mais Arnaud jouait avec son marteau dès qu'il le voyait parmi ses jouets, permet à l'enfant d'exercer sa coordination œil-main. Les plus vieux pourront jouer à faire semblant de cogner sur des clous.
Et voilà. Maintenant, quelqu'un va jouer avec un mètre à mesurer. On l'écoute.
Ah.
Oui.
Ma tête mesure 20 cm cubes. 20 cm, ça contient beaucoup. Tous mes rêves, mes mémoires, mes idées. C'est en ouvrant les yeux que je vais évoluer. J'évolue. J'évolue. Ma chambre mesure 9 mètres carrés. 900 cm, ça contient beaucoup. Ma chaleur, mon repos, ma sécurité. C'est en ouvrant la porte que je vais évoluer. Millimètre, centimètre, kilomètre, je suis maître de mon être. Et mon existence est toujours en croissance. Ma ville mesure 15 kilomètres carrés. Ça contient beaucoup. Mon travail, ma maison, ma communauté. C'est en voyageant que je vais évoluer. J'évolue. J'évolue. Ma planète mesure 40 000 kilomètres. Tant de kilomètres, ça contient beaucoup. Mère, toute l'humanité, c'est en visant
À vous, Franceline.
Eh bien, une brève pour, qui s'intitule « Trousse de secours » parce qu'on va voyager beaucoup pendant ce temps des fêtes. Alors, votre voiture devrait toujours contenir une trousse de dépannage comportant une lampe de poche, des piles, des couvertures, une chandelle, des allumettes, des fusées de détresse, des câbles de survoltage, de l'eau et des aliments non périssables comme des barres de céréales, par exemple. Et puis aussi de l'antigel, du lave-glace, des plaques d'adhérence, du sable et du sel, une pelle, un grattoir, un balai à neige et des vêtements et bottes de rechange.
Ça prend plus une auto, ça prend un camion.
Et si vous êtes en panne, vous serez bien content d'avoir tout ça dans votre voiture.
Alors écoutez, tantôt je vous ai parlé du petit marteau pour les bébés. Maintenant, je vais vous parler d'un jouet moins sexiste, moins parce que le marteau c'est quand même pour, comme pour les garçons. Ah ben, il y a Baby Fan, un doudou. Ça a été testé, ça, par la revue Protégez-vous. C'est fabriqué au Sri Lanka. C'est pour les 0 à 2 ans. Ça coûte 35 $. C'est un jouet musical. Un chien en peluche de 30 cm muni d'une corde qui déclenche une mélodie et des effets lumineux lorsqu'on tire dessus. Une cordelette permet de l'accrocher au lit, à la poussette, etc., etc. Il y a deux piles comprises avec ça, deux piles 3A. Adorable chien un peu rondelet, berceuse agréable, apaisante et de bonne intensité, jolis effets lumineux qui fascinent les bébés. On peut retirer le boîtier à piles pour laver l'animal. c'est fin. Alors, Émile aimait beaucoup prendre Doudou dans ses bras. Alors, ça peut être sympathique, ça. Et puis, chez certains bébés, les effets lumineux excitent davantage qu'ils ne calment, par exemple. Alors, il est conseillé de présenter le jouet à l'enfant avant l'achat afin de voir sa réaction. En avez-vous une autre?
Oui, j'ai un chiffre. C'est 371 $. C'est la somme que les ménages québécois envisagent de dépenser en cadeau de Noël cette année. Soit la moins élevée des 10 dernières années. Austérité oblige.
Alors, si vous avez un petit 30 $, on va trouver Nemo, ami pour le bain. Hein, c'est fabriqué en Chine, ensemble en plastique. On prend un poisson en forme de balle de 32 cm. C'est beau?
Oui, alors, on a oublié de le faire en début d'émission, mais si on ne l'avait pas, on aurait parlé dans le vide pendant cette heure qui vient de s'écouler. Là, c'est Rémi Hermoso en régie.
Ah.
Et voici que c'est la fin de cette Kiosque Magazine avec Franceline Nouviard.
Oui,
Serge Amin. Nous vous disons donc...
Joyeux Noël!
Joyeux Noël!
Oui!